Bonjour, frères et sœurs de l'Assemblée de Cap-de-la-Madeleine et YouTubeurs présents. Bienvenue à une autre prédication de l'Assemblée de Cap-de-la-Madeleine. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui d'une autre histoire et j'aimerais qu'on parle un peu de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait sur la terre et ce à quoi il nous appelle à être aussi. J'aimerais, pour les circonstances, regardez les touchés qui changent des vies. Christ a fait des touchés, il a été touché et cela a changé des vies. C'est bien normal, mais c'est ce que nous allons voir dans Marc au chapitre 5 et à partir du verset 21, s'il vous plaît. Marc 5, 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière: Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talitha kumi, ce qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Histoire touchante, histoire qui vient du Seigneur lui-même. Dans les évangiles, il est mentionné que 3 personnes se sont prosternées devant Jésus. Et ils sont tous dans ce chapitre-là. Le démoniaque au verset 6, Jaïrus au verset 22 et la femme qui avait la perte de sang au verset 33. Mon intention est de mettre en évidence 2 personnes qui cherchent Jésus pour leur soumettre leurs problèmes. Premièrement, Jaïrus, chef de la synagogue, homme bien en vue, respecté, respectable, un homme avec beaucoup de moyens, mais son problème, sa fille, qui est sur le point de mourir. Il sait que le Seigneur peut faire quelque chose pour lui. Il n'a aucune réticence à approcher Jésus. Sa position lui donne une notoriété. Mais, et malgré cela, il s'approche de Jésus de la bonne manière. Il s'approche avec une attitude d'humilité. Et ça lui demande une certaine dose de courage pour faire ça, là, quand il se jette à ses pieds. Jésus reconnaît sa foi et il le suit. Mais voilà, Dieu, durant qu'il le suit, s'arrête à une autre demande. Et cette personne-là qui l'a fait arrêter est complètement l'opposé de Jaïrus. C'est cette jeune femme de Perte qui perd du sang. Cette femme que l'on connaît, que l'on ne connaît pas le nom, une femme inconnue, une nobody, à condition misérable, une maladie qui l'a fait dépérir peu à peu depuis 12 ans, une perte de sang. Selon la loi juive, dans Lévitique, au chapitre 15, les femmes qui avaient des pertes de sang devaient suivre un certain rituel. Et laissez-moi vous lire sans que vous tourniez. Lévitique 15, à partir du verset 19. La femme qui aura un flux de sang dans sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et ainsi de suite. L'impureté de cette femme était évidente. Elle était impure. Ceux qui la touchaient aussi étaient impurs. Ceux qui allaient à son aide étaient impurs jusqu'au soir. Religieusement et socialement, cette femme était très difficile d'être acceptée. Elle était rejetée. Elle vivait un rejet constant, et cela depuis 12 ans. Si la perte de sang ne la tue pas, le rejet va le faire. Elle était très diminuée. Mais cette femme défie la loi et la société pour s'aventurer dans la foule et elle veut voir Christ. Mais elle fait profil bas, elle se dissimule, elle est très, très, très discrète. Monétairement, elle a tout dépensé et ça l'a empiré sa situation. Maintenant, elle sait que si elle touche Jésus, il va être impur. C'est pas son but, mais elle n'a pas beaucoup de solutions. Mais voilà, elle est à l'extrémité, comme la fille de Jaïrus, elle est à l'extrémité. Elle ne peut plus rien faire. Sa foi trouve un chemin. Elle se dit, je vais toucher son vêtement. Oui, son vêtement. Et si je touche son vêtement, je vais être guérie. C'est exactement ce qui se passe. Elle touche son vêtement, elle est guérie. Elle a fait un toucher intentionnel à Jésus pour son vêtement. Et Jésus s'en est aperçu. Jésus a perçu cette intention-là. Et la foi de cette femme-là a trouvé une réponse. Au verset 30, Jésus connut qu'une force était sortie de lui. Je trouve ça extraordinaire que Christ réponde à la foi par une puissance qui est donnée. On peut pas, c'est impossible, on ne peut pas connaître quelqu'un qui répond à la foi par une puissance qui est donnée. C'est le seul qui réussit à faire ça. Deux pensées me viennent à l'esprit juste dans cette situation-là. La première, c'est que Jésus est très sensible à la confiance que nous mettons en lui. Il est très touché de cela. Et deuxièmement, dans cette situation-là, la seule personne qui est consciente qu'il y a eu un changement, c'est la dame et le Seigneur. Et pour Jésus, la foi, même pour quelqu'un qui est socialement très bas, c'est important d'y répondre. Et les paroles rassurantes de Jésus font encore écho aujourd'hui. Ta foi t'a sauvé. Va, tu es guéri. Qu'est-ce que ce récit-là nous apprend? Au-dessus de la loi, il y a la miséricorde. Tout le parcours que Jésus a eu sur la terre a été un parcours de miséricorde. Pour Jésus, il y a la loi, mais il y a aussi la miséricorde. Et les deux peuvent aller ensemble. Dans la loi, selon le texte de loi, il aurait dû être hésitant à se faire toucher son vêtement par cette femme. Il était capable de flairer ça. Il était capable de comprendre, il était capable de voir la situation de cette femme-là. Mais dans l'esprit de la loi, il y a la miséricorde. Jésus dira lui-même, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Il dit ça dans Matthieu 9, 3 et Matthieu 12, 7. Même si les sacrifices étaient clairement décrits dans la loi, Jésus croit qu'utiliser la miséricorde est mieux que de s'arrêter à la loi seule. C'est Jésus qui reproche aux pharisiens à l'époque de respecter la loi dans les plus petites choses, mais d'oublier le plus important. La justice et l'amour de Dieu. Et il va dire ça dans Luc 11, verset 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Dans cette phrase de Jésus, ce n'est pas la loi qui est prise en défaut, mais c'est l'usage qu'on en fait. Nous utilisons souvent la loi pour poser des jugements, pour juger les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Mais la loi n'existe pas pour cela. La loi existe pour que je connaisse le chemin à prendre. Non pas pour que je fasse connaître aux autres le chemin qu'ils doivent prendre. Mais la loi m'est donnée à moi pour que je connaisse le chemin que je dois prendre. Pour les autres, c'est la miséricorde, la compassion. On n'est pas des juges, mais des serviteurs. J'aimerais terminer avec Romains 14, 4 sur ce point-là. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Deuxième point, au-dessus de la classe sociale, il y a la compassion. Compassion pour le riche comme pour le pauvre. La souffrance est la même, que vous valiez des millions ou que vous soyez itinérant. Ce que Christ a vu en Jaïrus est un homme qui souffre et qui recherche une solution à son problème. Son attitude le prouve. Il s'agenouille, malgré que ce soit une personne qui a une position d'autorité. Normalement, il ne devrait pas s'agenouiller devant quelqu'un. Ça devrait être plutôt celui du peuple qui devrait s'agenouiller devant lui. Mais dans sa recherche sincère, il s'agenouille, il s'humilie. Il a eu la bonne attitude. Et Christ a écouté et il a répondu à sa demande. Troisièmement, Jésus est celui qui peut travailler avec les situations extrêmes. Jésus est le seul à avoir la capacité de travailler avec les extrêmes. La jeune fille qui agonise et qui jusqu'à décéder, malgré que les amis de Jaïrus le découragent dans sa démarche, le combat de Jaïrus est de garder la foi, de garder la confiance en Jésus. La femme pour qui la seule solution, c'est une lente agonie dans son corps et dans son âme, rejetée de tous les milieux, et cela depuis 12 ans, tout ce qui lui reste, c'est la foi en Christ. L'histoire prouve qu'elle avait tout ce qu'elle avait besoin. En réalité, ce que nous considérons comme des extrêmes, ce que nous pouvons vivre comme des extrêmes, Dieu travaille avec ces extrêmes-là pour que nous voyons qui il est et comment il nous aime. Si cette histoire nous a parlé, si cette histoire est dans notre cœur, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit que la plupart de nous, nous faisons des lois et des règles. C'est dans notre nature. Nous donnons des règles, des lois à suivre. Mais c'est la loi et la règle qui devraient être au-dessus de tous, c'est l'amour et la miséricorde. Finalement, il ne devrait jamais y avoir de discrimination dans mon cœur, peu importe le rang social. Face à l'éternité, tout être humain est égal et doit bénéficier du même message de salut et de compassion pour son âme. Mettre notre confiance et notre foi en Dieu pour notre salut et pour notre marche est vraiment ce que Dieu recherche. C'est par ce moyen que Dieu peut faire son œuvre à travers nous. Que ce soit une foi exprimée, comme celle de Jaïrus, ou complètement secrète, comme celle de la jeune femme, Dieu lit dans les cœurs. Dieu connaît le langage de mon cœur. Je vais vous laisser avec la phrase clé de toute cette histoire, et elle se situe au verset 36. Ne crains pas, crois seulement. Même si ça fait un bout de temps que j'ai donné ma vie à Christ, cette phrase a encore un grand impact dans ma vie. Ne crains pas, crois seulement.